le 6-9 du week-end. Éric Delvaux sur France Inter.
Intervenez au 01 45 24 7000. Question ce matin à Denis Oliven, ancien directeur de plusieurs entreprises culturelles et de médias. Également à ses côtés, Mathias Chiche-Portiche, avocat spécialiste en droit pénal et en droit des médias en particulier. Vous publiez donc ce livre « Mortelle transparence » chez Albin Michel. On va détailler le contenu de ce livre. D'abord, question de côté avec vous, Patricia Martin.
Oui, messieurs, bonjour. Est-ce que c'est pas une question de génération, cette mortelle transparence dont vous parlez? Parce que chez les 15-20 ans, c'est assez naturel de mettre sa vie, y compris sa vie privée, très privée, sur les réseaux. Ça, c'est presque, pour nous, ça paraît peut-être être de l'exhibitionnisme, mais pour eux, ça n'en est pas. Alors, est-ce que c'est pas eux qu'il faut particulièrement mettre en garde sur, effectivement, les conséquences que ça peut avoir?
Si, vous avez 100 fois raison. Il est évident, Mathias le disait tout à l'heure, que nous sommes nous-mêmes les auteurs des menaces qui pèsent sur nous. Alors évidemment, le réseau utilise, enfin les réseaux flattent nos faiblesses, notre exhibitionnisme, notre narcissisme, et les jeunes, ils sont plus sensibles encore. Ils sont nés dans cette culture. Et ce que nous disons, Mathias et moi, c'est que, bien sûr, on peut imaginer que, comme au 18e, on a fait un code civil, ou au 19e, un code du travail, on fasse aujourd'hui un code numérique. Mais ce qui est le plus important, c'est que on forme, on éduque, que chacun comprenne ce qui se passe dans ces réseaux. Parce que on est absolument favorable à ce progrès numérique, on pense que ses bienfaits sont remarquables, et simplement qu'il faut le maîtriser. Et le point clé de la maîtrise, c'est la conscience et l'éducation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait ce livre. Et on est très heureux de la réception et du débat qu'il suscite, parce que c'est ça qu'on souhaite. Mais le débat, c'est bien, l'éducation, c'est mieux encore. Et donc, ce point clé de faire comprendre à nos enfants ce que sont ces réseaux, quelle utilisation on fait de leurs données, le droit à l'oubli dont on parlait tout à l'heure, qui est le fait que vous pouvez être poursuivi pendant 10 ou 15 ans à cause d'une photo, d'un propos, d'une chose qu'on a dite sur vous, et quand vous avez 16 ans, vous faites une bêtise ou on vous reproche, pas forcément vrai d'ailleurs, sur les réseaux, et 10 ans après, quand vous allez à votre premier entretien d'embauche, on vous ressort ça. Donc il faut que nous soyons conscients et que notre jeunesse soit consciente de ce que sont ces outils pour qu'elle les utilise à bon escient.
Puisque notre vie privée ne serait plus un droit acquis, que va-t-il falloir négocier pour continuer à sacraliser cette vie privée? Qu'est-ce qu'il s'agit de négocier maintenant?
C'est tout le sujet. Est-ce qu'on doit négocier la vie privée? Vous avez deux conceptions qui s'opposent, la conception anglo-saxonne qui rattache la vie privée au droit de propriété. Ça se négocie donc. Les données personnelles se commercialisent, elles ont une valeur. Et vous avez une conception, quelque peu européenne, même si le terme a évidemment sa limite. Elle rattache la vie privée à un droit de la personnalité. C'est attaché à la personne, ça n'est pas négociable. De la même manière que vous ne pouvez pas disposer de votre corps, que vous ne pouvez pas louer un certain nombre d'organes, eh bien évidemment la vie privée, elle non plus, ne se négocie pas. Résister à cette tentation justement de la négociation, étant précisé que dans un contexte d'hyperconnexion, il faut évidemment varier les modes de protection de cette vie privée, mais ne pas la négocier.
Il existe des jalons, il y a la CNIL en France et les organes similaires.
C'est très intéressant ce que vous dites,
parce que
la CNIL, vous voyez, c'est la moitié du budget du CSA. Donc, il va falloir aussi que la prise de conscience se fasse de savoir quels sont les moyens que nous souhaitons donner à la protection de la vie privée dans ce pays.
Dans le livre, vous dites que ça ne viendra plus des textes écrits du haut. Il va bien falloir que la base s'en charge également. Et la base, ce sont les GAFA. C'est qui la base?
C'est évidemment des mécanismes potentiellement d'autorégulation. Car, soyons clairs, on ne va pas revenir en arrière. On ne va pas jeter nos smartphones, et c'est pas l'objectif. On ne va pas du jour au lendemain cesser de naviguer sur Internet. L'objectif, il est de responsabiliser l'ensemble des acteurs. Et ça n'est absolument pas, un livre qui soit contre les GAFA. C'est au contraire la volonté de les mettre dans le jeu, de ne pas les ostraciser, mais de les responsabiliser.
Denis Oliven.
Oui, on peut prendre un exemple, une analogie. On est tous très favorables au progrès de la médecine. Et en même temps, on a tous pris conscience du fait qu'il fallait un cadre, des lois bioéthiques, comme on dit, pour éviter Dr. Frankenstein. De la même façon, on est tous très favorables au progrès de la révolution énergétique. L'électricité, le pétrole, le charbon, tout ça a changé notre vie. Mais on a pris conscience des dangers que cela pouvait comporter pour l'environnement. On a même peut-être trop attendu. On a attendu le réchauffement climatique pour se réveiller. N'attendons pas le réchauffement numérique. Mais en tout cas, pour les lois bioéthiques, comme pour l'environnement, et encore plus pour le numérique, il ne s'agit pas d'élaborer des lois dans le cabinet secret des ministres. Il s'agit de mettre autour de la table toute la société, les experts intéressés, les juges, les gens des médias, les gens du numérique, les entreprises, les citoyens, pour essayer d'élaborer des codes de conduite qui soient le consensus de ce qu'on accepte et de ce qu'on n'accepte pas. Sans doute, même s'il faut être intransigeant sur la vie privée, il y a des évolutions qui vont se produire, il y a des choses qu'on va accepter. Mais il faut qu'on le définisse ensemble.
Ce qui est effarant quand on vous écoute, c'est que Internet existe depuis l'an 2000, donc 18 ans maintenant, et qu'il semble que c'est maintenant seulement qu'on prend conscience, véritablement, à travers votre livre et du débat que vous posez sur la place publique, de l'importance de nos vies privées menacées.
Mais c'est vrai, et en même temps c'est vrai que nous, à l'échelle de nos vies à nous, c'est beaucoup 18 ans. Oui. À l'échelle de l'histoire de la civilisation, c'est peu. Donc 20 ans après les débuts d'une innovation aussi puissante, on commence à débattre de ces questions, c'est pas complètement normal. Ce qui serait anormal, c'est qu'on soit indifférent ou inconscient. C'est pour ça qu'on s'est réveillé, nous, parce que nous, on n'a pas vocation à écrire des livres.
Non, mais vous étiez aux premières loges,
exactement.
Vous dans les médias, la culture, vous en avocat
exactement.
Des médias.
C'est exactement ça. On est aux premières loges, on est des témoins avancés de ce qui se passe. Et donc, il faut qu'on lutte contre ceux qui disent « Mais non, c'est réactionnaire de dire ça, le progrès est
c'est
génial. »
C'est pas le propos de votre livre.
Du tout. Et donc, il faut qu'on résiste à deux tentations contradictoire. La première, des réactionnaires qui disent tout ça, c'est de toute façon atroce, il faut tout arrêter, ce qui est impossible, et des technophiles naïfs qui pensent que bah, tout ça, ça crée beaucoup plus de bien-être que ça n'en détruit. Et il faut qu'on trouve une manière d'accepter ce progrès, ces innovations, cette liberté fantastique que nous offre ce monde, sans en avoir tous les inconvénients.
Mathias Chiche-Portiche, vous disiez à l'instant que ça va être compliqué de revenir en arrière, et je pose la question à l'avocat. Ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est l'inversion de la norme, là aussi, on pourrait dire. C'est que désormais, le règne du soupçon prévaut. Nous sommes soupçonnables dès lors que nous ne nous plions pas aux injonctions d'Internet. On a renversé la norme.
Totalement. Et la difficulté, c'est lorsque on transforme la présomption d'innocence en une présomption de culpabilité généralisée.
On va l'illustrer par un exemple. À partir de quand, sur Internet, on devient soupçonnable et par qui ?
Bah, si vous voulez, dès lors que votre nom est potentiellement jeté en pâture et que la viralité de la société numérique devient totalement hors de contrôle et que le débat, la contradiction, ce qui fait la singularité du débat judiciaire, c'est la possibilité d'apporter la contradiction. Sur Internet, la contradiction est quasiment impossible, parce qu'elle est noyée dans la masse. C'est ça la difficulté. Et dès lors, si vous renversez donc la présomption, ça n'est pas à l'accusation de rapporter la preuve que vous êtes coupable, c'est à vous de rapporter la preuve que vous êtes innocent, ce qui est malheureusement souvent impossible.
L'exemple illustre qui est très parlant, c'est de savoir qu'un assureur peut dire « Vous ne voulez pas mettre une puce sur votre voiture, c'est peut-être que vous conduisez trop vite et donc on devient soupçonnable. »
Vous voyez comment on généralise ce que je viens de vous dire dans le domaine judiciaire à tous les pans de la vie au quotidien, ce qui signifie bien qu'on est face à une idéologie et l'objectif évidemment c'est de faire en sorte à la fois, on l'a dit beaucoup, d'en prendre conscience, parce que si nous n'en avons pas conscience, on ne peut pas lutter contre, et évidemment de trouver des nouvelles formes pour en limiter les effets pervers.
Et puisque vous décrivez également dans votre livre, Denis Oliven, à terme, c'est finalement la fin du hasard, le triomphe de la standardisation, avec quelles conséquences ?
Oui, ça c'est un autre élément de cette société numérique, parce qu'on passe en revue toute une série de ces effets pervers. L'autre élément, c'est la puissance phénoménale des outils de calcul, des algorithmes et des puissances de calcul fait qu'on brasse des milliers de données ou des centaines de données, qu'on les recoupe les unes avec les autres, qu'on en tire des conclusions. Et l'un des objectifs, c'est d'abolir le hasard. Par exemple, on crée des outils pour faire que dans les rencontres amoureuses, vous sachiez a priori si, compte tenu de votre profil et celui de votre partenaire, vous avez une bonne chance que ça marche.
Ça peut pas améliorer les choses, ça, un peu, non? Ça peut pas améliorer les choses.
Mais c'est ça, l'incroyable situation dans laquelle nous sommes, c'est que rien n'est noir et blanc. Il y a à chaque fois des éléments positifs et d'autres éléments qui sont négatifs. En l'occurrence, peut-être que améliorer la rencontre, c'est pas mal, mais abolir tout hasard dans la vie amoureuse. Donc, vous imaginez, si on avait fait ça il y a 2 siècles, toute notre littérature aurait disparu. Que serait Marcel Proust à l'heure des algorithmes? Il y a une part de... Et surtout, c'est croire qu'il y a un déterminisme absolu. C'est-à-dire que si vous avez coché les 800 cases et qu'on a recoupé votre profil, il n'y a aucune alchimie entre vous. Peut-être que quelqu'un qui vous n'est pas destiné naturellement à matcher avec vous, comme disent les algorithmes...
Et peut-être que ça peut durer toute la vie.
Mais voilà, parce que la rencontre, vous allez vous polir comme des cailloux. Vous voyez bien qu'on est dans une société qui n'aurait plus rien à voir avec la société qui fait de notre vie une vie humaine. Il y a un philosophe qui s'appelle Hans Jonas et qui a écrit un livre après la guerre et dans lequel il édictait un nouveau principe de responsabilité qui était agis en sorte que tu gardes une vie authentiquement humaine sur Terre. On doit tous agir en sorte de garder une vie authentiquement humaine sur Terre. Et je ne suis pas sûr que discipliner tous nos comportements par des algorithmes maintiennent
la part d'humanité disparaît en même temps. On va aller au standard avec une question de Catherine. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour à tous. Alors ma question est simple mais un peu compliquée quand même. Est-ce que le totalitarisme que vous semblez constater dans le numérique ne s'inscrit-il pas bêtement dans un totalitarisme global puisqu'au plan anthropologique on est une espèce animale, nous sommes dans un patriarcat qui est un totalitarisme mâle, comme on pourrait avoir un totalitarisme femelle, c'est-à-dire que notre GPS, en fait, il manque un morceau. Et tous nos progrès sont associés à... On le voit partout, le progrès technique, c'est la pollution, c'est 11 milliards d'individus qui réchauffent la planète. On est dans quelque chose qui n'est pas pondéré. Et donc ce totalitarisme semble s'inscrire, hein, je dis bien semble, dans un totalitarisme anthropologique global, un totalitarisme de genre.
Alors, je ne sais pas si on est très bien placé pour répondre à cette question. Est-ce que ce totalitarisme doux que vous décrivez dans votre livre s'inscrit dans un totalitarisme anthropologique?
Je ne suis pas complètement d'accord avec Catherine, parce que on a des sociétés démocratiques. Le totalitarisme, il faut se rappeler ce que c'était. Le stalinisme, le nazisme, les Pol Pot, c'est quand il y a un État dictatorial qui impose aux citoyens l'abolition de toute leur liberté.
Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, une dictature supprime Internet, d'abord.
Oui, absolument. Donc on n'en est pas là, on est dans une société démocratique. Et tous les phénomènes que Catherine évoquait, par exemple le machisme, la société patriarcale, on la combat. On l'a fait, même si on est très loin d'avoir atteint les objectifs, mais le combat contre le sexisme a fait des progrès considérables. Il doit en faire encore, mais il en a fait. Le combat contre les dommages de l'environnement, on est dans une société de liberté, en tout cas dans un certain nombre de pays, qui permettent d'avoir un débat et de faire avancer un certain nombre de questions. Ce qu'on décrit là, c'est autre chose en fait. On parle d'un totalitarisme doux parce que précisément, c'est pas une dictature qui s'impose à nous. C'est nous qui abdiquons une partie de nos libertés parce que les bienfaits que nous tirons de cette société numérique nous masquent les méfaits pour nos libertés, pour l'abolition d'un certain nombre de nos droits ou d'une société civilisée à laquelle nous étions attachés.
Et puis, on revisite une thèse qui est celle de la servitude volontaire. C'est cette idée qu'on participe à notre propre servitude et qu'elle a de surcroît le visage du progrès moral.
Et on lira les concepts d'opinion panurgique dans ce livre, le poujadisme numérique, tout ça, donc dans cet ouvrage que vous co-signez, Denis Oliven, Mathias Chiche-Porti, ça s'appelle « Mortelle transparence ». La transparence à outrance et la menace sur nos vies privées, c'est chez Albin Michel. Merci d'être venu ce matin tous les deux en parler sur France Inter.
Merci. Il est 8h.